Ce hors-série vous est présenté par Toyota, partenaire mobilité des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.
Kalinsa, vous grandissez avec vos frères et vos sœurs d'armes au sein de cet internat.
Allez.
Ça fait quasiment 7 ans, on nous dit Paris, parce que les Jeux, c'est quelque chose de dingue.
Faire les Jeux Olympiques, intégrer l'équipe de France, ce sont des choses vraiment qui leur tiennent à cœur.
Le Graal, ça reste les Jeux Olympiques, donc à chaque fois, vous voulez la marche au-dessus.
C'est une forte responsabilité et on se doit de représenter au mieux notre nation.
Deux destins pour un rêve. Le podcast qui vous emmène dans les coulisses de l'INSEP.
Allez, ça marche.
Nous sommes à l'entrée de l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Cécilia Berder, championne d'escrime, y retrouve Jonathan Hiverna, capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil.
Du coup, si je te pousse, ça t'aide pas?
Non, pas du tout.
Du coup, je peux monter sur ton fauteuil. Toi qui vas me porter.
Tu sais que dans mes entraînements, en ce moment, je tracte un traîneau.
C'est vrai?
Oui, ah, avec un harnais et je viens de traîner derrière avec des poids. Je tracte entre 40 et 60 kilos et en avant, quoi.
En 40-60, je suis un peu plus lourde quand même. C'est une machine. Je vais même te faire un petit quiz parce que sur chaque lampadaire, tu vois, il y a des petits sportifs qui sont un petit palmarès, tu vois. Un petit Tony Yoka,
un petit Tony Yoka.
Clarissa Gbignenou.
Oui.
Petit palmarès, tu vois.
Petit palmarès, ouais. Boris Dio, là-bas, non?
Ouais, c'est ça.
Ça ouais. Ah, c'est pas mal.
À quelques mois de l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Cécilia, qui s'entraîne tous les jours à l'INSEP, joue aujourd'hui les guides auprès de Jonathan, venu exprès de Toulouse, pour visiter cet endroit mythique, situé au cœur du bois de Vincennes, sur près de 28 hectares à Paris, et qui a vu naître de grands champions. Cécilia et Jonathan n'ont pas le même parcours, mais ils partagent le même rêve, gagner une médaille olympique.
T'es déjà venu toi à l'INSEP?
Mais je suis venu déjà une fois, mais tu vas m'en dire un petit peu plus parce que tu viens très très souvent.
Non,
et c'est ça qui est... Voilà, ouais, donc hâte de découvrir ça avec toi. Ouais.
Alors ici déjà, t'as fait le plus dur, t'as passé les grilles. Les grilles, c'est là où il y a le contrôle de sécurité. L'INSEP, c'est pas forcément facile de rentrer, donc on a la chance, nous on est privilégiés, on a notre carte et on peut y rentrer tous les jours. Tu passes le portique et là, t'arrives vraiment au cœur de l'entrée de l'INSEP avec un petit décompte. J-60, car on est à 60 jours des Jeux Olympiques, un peu plus des Jeux Paralympiques, t'as encore un peu plus de temps, toi. Et après, là, c'est tout ce qui va être internat, tout ce qui va être école. Et après, c'est simple, quand tu passes, vraiment, il y a une groute qui fait là, une parallèle entre les deux parties de l'INSEP. Là, c'est toute la partie sport. Et là, ça devient vraiment très intéressant. Ouais.
On ressent une atmosphère d'excellence et de prestige un petit peu. Donc, c'est vrai que je pense que chaque athlète ou chaque interne ici doit aussi se surpasser en vue d'aller chercher les plus belles performances. Donc ouais, hâte de découvrir ça.
On est où toi dans les compètes?
Eh bien écoute, nous on est dans une autre phase un petit peu terminale de sélection.
Je t'avais pas vu depuis.
Eh bien oui, c'était fou.
Ah ouais.
C'était incroyable.
Les grands athlètes sont pour la plupart engagés dans la compétition dès le plus jeune âge. Ils sont d'ailleurs 96 sportifs mineurs à vivre à l'internat de l'INSEP, comme ce fut le cas pour Cécilia. Grâce à elle, qui s'entraîne ici depuis plus de 10 ans maintenant, toutes les portes s'ouvrent à nous aujourd'hui. Dans ce premier épisode, elle nous embarque dans une visite des lieux et de son histoire personnelle.
Épisode 1. Retour à l'école.
Alors j'ai grandi en Bretagne, j'ai grandi avec deux frères et mes parents, donc dans une maison avec un père. J'ai commencé l'escrime, j'avais 7 ans. Alors je voulais pas du tout faire l'escrime, je voulais faire de l'escalade, mais il y avait plus de place dans le club. On était en 96, ma mère avait vu les Jeux à la télé et avait adoré l'escrime. Et ma mère m'a dit « je trouve que tu as le look pour faire de l'escrime ». Et quand on a 7 ans, on sait pas forcément ce que c'est un look, on sait pas non plus forcément ce que c'est de l'escrime, mais on écoute sa maman. Et je suis arrivée au club avec elle et je me rappelle encore très bien du maître d'armes qui me dit « bah voilà, bienvenue, là tu es dans une salle de fleuret ». J'ai pris le fleuret en main, je dis oh, « c'est un peu lourd, c'est un peu long ». Il me dit « ok ». J'ai fait assez 10 secondes dans cette salle, il m'a dit « toi, tu viens à côté, je te préviens, il y a que des garçons, c'est du sabre ». Le sabre, c'est l'arme dans l'escrime qui va le plus vite, c'est la plus explosive, c'est l'équivalent d'un sprint un peu dans l'escrime. Et il m'a dit, ben, je pense que ça peut te plaire. J'ai pris un sabre en main. Il m'a dit, va voilà, tu peux toucher ton adversaire au-dessus de la ceinture. La règle, c'est ça, il faut attaquer pour pouvoir avoir un point. Et en plus, je peux même taper sur les garçons sans avoir de problème. Bah, c'était parti, en fait. Et tout était aligné pour que je m'éclate, parce qu'il y avait le combat, il y avait l'intelligence de jeu aussi, savoir être lente au moment donné où tout va très vite, savoir feinter son adversaire, savoir le piéger. C'était incommensurable de pouvoir se régaler là-dedans. Donc, c'était parti. J'avais 7 ans, aujourd'hui, j'en ai 34 et je me régale toujours autant.
C'est quoi votre palmarès ?
Alors, j'ai été vice-championne du monde et vice-championne d'Europe en individuel, championne du monde, championne d'Europe et vice-championne olympique par équipe. J'ai été très rapidement accrochée à la compétition parce que compter les points, ça me plaisait, pouvoir gagner des matchs, ça me plaisait. Évidemment, vous commencez par les championnats du Finistère, les championnats départementaux, puis les championnats régionaux. Et puis, à chaque fois que vous gagnez une compète, vous voyez qu'il y a une marche juste après. On vous dit, OK, ça peut être interrégionaux, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à Nantes faire une compétition. OK, bon, on y va. Et puis après, c'est les championnats de France, et puis après, les championnats d'Europe, puis les championnats du monde, et les championnats, et puis les Jeux Olympiques. Donc, en fait, ça grimpe à chaque fois. Il y a une porte derrière et avoir beaucoup de chance d'avoir mes parents qui m'ont soutenue. Qui ont été OK de traverser la France sur un week-end, d'aller jusqu'à Grenoble. Alors oui, quand on vient de Quimper, c'est pas à côté. Et on se prend au jeu, et puis après, vous voyez des étrangers, vous voyez, il y a marqué Espagne dans le dos, il y a marqué Allemagne, Angleterre, vous dites, oh, on fait la même chose, et à chaque fois, je vais pouvoir grandir. Et alors forcément, et puis le Graal, ça reste les Jeux Olympiques, donc à chaque fois, vous voulez la marche au-dessus, et c'est très facile de se faire attraper par ce virus. Et enfant, j'avais ce côté très bagarreur et compétiteur, et le fait de le faire avec des arbitres dans un cadre exceptionnel, à chaque fois, ouais, on se prend vite au jeu.
Là, c'est à gauche.
À gauche.
Mais je sais pas si tu vas pouvoir descendre là.
Ouais.
Cascadeur.
Fauteuil tout terrain.
Ouais. Ça va aller parce que c'est... Ouais, c'est pas trop fatigant si on va jusqu'à la salle, parce que c'est quand même assez loin, quoi.
Ah non, 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 tu rigoles.
Ici, c'est vraiment une ville dans la ville.
Ah oui, c'est un village. Moi, avant, j'étais à l'internat ici, quand j'étais plus jeune. Et des fois, je me rendais compte, je disais, ça fait combien de temps que je ne suis pas sortie d'ici ? Parce que donc, je pouvais évidemment m'entraîner, je pouvais étudier, je pouvais dormir, je pouvais manger, je pouvais faire quelques petites courses. Et je me disais, mais attends, Cécilia, il va peut-être falloir se reconnecter au vrai monde à un moment donné, parce que tu peux ne jamais sortir, tout est fait ici, et puis t'es contente de te coucher tôt, et t'es contente de faire une sieste entre midi et deux, et que les journées s'enchaînent, donc bah ouais, des fois, tu ne sors pas d'ici, quoi, donc...
Vous y avez passé combien d'années ?
Alors j'ai passé 2 ans d'internat et moi je suis arrivée à l'INSEP en 2009 et après donc je suis devenue donc externe, j'ai trouvé mon appartement à l'extérieur et puis ma vie et c'est l'envie de se faire à manger soi-même qui m'a fait sortir de l'internat.
On va faire le tour par là.
Donc là t'arrives à la scolarité,
okay.
T'as 3 énormes bâtiments. Moi j'ai passé ma licence de journalisme ici, donc t'as vraiment de tout. Hein.
Ah mais t'as aussi l'espace universitaire.
Ah oui. T'as STAPS, t'as journalisme, t'as beaucoup de parallèles aussi. Donc t'as le lycée, t'as le collège, t'as une école aussi, là t'as un DUT économie je crois. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de formations possibles.
C'est génial.
Oh, puis c'est génial. Tu vas voir les profs, ils sont tellement bons. Là je crois qu'on va avoir une école une classe de seconde.
De seconde, ouais.
Bonjour. Bon, alors donc on disait que les sociétés avaient tendance à perdre la culture du risque et qu'elles se réinstallaient dans des zones à risque. Ok, donc vous mettez exemple Mocoa, glissement de terrain en Colombie, pour vous rappeler de ce dont on avait parlé. Donc exemple à Mocoa, je vous le réécrive.
Bon, on vient vous voir, on se présente peut-être juste une seconde pour ne pas vous embêter trop longtemps. Moi, je suis Cécilia Berdard, je suis au pôle escrime, je suis athlète avec vous, je suis un peu plus âgée, mais j'étais à votre place il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, Jonathan.
Et bonjour à tous, moi c'est Jonathan Hiverna, donc je viens de Toulouse, je suis le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil en vue des futurs Jeux Paralympiques de Paris 2024. Voilà, donc aujourd'hui, Cécilia me fait découvrir l'INSEP.
Voilà, j'espère que vous, ça se passe bien. C'est pas encore le bac, ça va, vous avez le temps.
Vous êtes en quelle classe ?
Seconde, on est en seconde, ouais.
Et là, c'est un cours de quoi ?
Là, on fait un cours d'histoire.
J'ai géographie,
pardon. Histoire géo.
Mathis Mahop, 16 ans, basketteur. Tu peux me présenter un peu les disciplines de tes camarades ?
Là, il n'y a que des basketteurs, mais sinon, quand la classe est complète, il y a des basketteurs et des gymnastes.
Et ça s'organise comment, du coup, votre emploi du temps ?
On commence les cours à 7h55 jusqu'à 10h30. Après, on a entraînement tous, prépa physique, et on reprend les cours à 14h30 jusqu'à 16h15 à peu près.
Et réentraînement.
Ouais, des entraînements par jour. Ouais.
Et le soir, qu'est-ce que tu fais aussi?
Et donc le soir, on a les études qui commencent à peu près vers 20h.
Cécilia, vous avez des souvenirs comme ça d'emploi du temps assez fou?
Ouais, c'est ce que je disais, que la bibliothèque, je ne sais pas si vous l'utilisez des fois pour faire la sieste, mais si des fois on a juste 10 minutes pour pouvoir juste faire un petit dodo, c'est quand même pas mal. C'est trop important de pouvoir récupérer un peu entre midi et deux, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Vous avez le temps de faire la sieste ou pas?
Non,
allez, pas trop. Prends le temps.
Ouais, pas trop.
Avant ma licence que j'ai pu faire ici à l'INSEP avec Sportcom, j'ai fait un DUT technique commerciale dans une école complètement plus normale. On les appelle les moldus, c'était des élèves qui n'étaient pas du tout des sportifs, donc avec des élèves classiques qui ne connaissaient pas trop le sport de haut niveau. Et je rentrais de compétition, on avait fait un déplacement en Allemagne et j'étais rentrée dans la nuit du dimanche au lundi. Donc le lundi matin, c'était un peu dur, je m'étais un peu assoupie en cours. La prof, qui ne savait pas du tout où j'en étais, et elle savait que je faisais du sport, mais ne savait pas du tout les codes du sport de haut niveau, m'a pris un peu en grippe devant tout le monde en disant, vous voyez, Cécilia Berder, au fond, qui commence un peu à s'endormir, c'est une personne qui ne sait pas choisir. Elle veut tout faire, mais en fait, elle ne fait rien. Et c'est vrai que j'étais fatiguée, et c'est vrai que j'étais pas concentrée, je pense pas perturber le cours, mais j'étais pas à fond dans le cours. Ça m'a sur le coup un peu vexée parce que je revenais d'une Coupe du Monde où j'avais vraiment bien cravaché et j'étais là en cours à 8h du matin en fait, alors que j'avais 2 heures de sommeil dans les pattes, j'étais quand même là. Et je me suis dit, ma petite poule, ok, je t'entends en fait. Et je sais que tu sais pas ce que c'est le sport de haut niveau, c'est pas que je t'en veux, mais je vais te montrer qu'en fait je choisis de mener des études parce que c'est primordial. C'est important d'assurer notre après-carrière, c'est important de se cultiver dans d'autres choses que dans le sport de haut niveau. Mais j'ai aussi envie d'assurer dans le sport de haut niveau et je suis capable de faire les deux. La différence aujourd'hui, c'est qu'à l'INSEP, on a des profs qui savent ce que c'est le sport de haut niveau, qui vous encouragent. Quand vous partez en compétition, ils sont « Ah ouais, on est avec toi, on est avec toi ». Et en fait, ça change tout. Vous avez l'esprit beaucoup plus léger. Vous ne vous sentez pas obligé de leur prouver que vous êtes capable de gérer les deux. Ils savent que vous êtes capable de gérer les deux. Ça demande du temps, ça demande de l'organisation, ça demande une vraie bienveillance. Et c'est vrai que les profs qui sont formés à ce que c'est le sport de haut niveau, bah oui, il y a forcément cette bienveillance naturelle et ça passe mieux.
À la scolarité, à l'INSEP, on compte 40 professeurs issus de l'éducation nationale pour enseigner à ses élèves hors normes. Chaque vendredi, les jeunes sont tenus de se rendre dans un établissement classique auquel ils sont affiliés pour sortir de l'enceinte de l'INSEP et ne pas perdre pied avec la vie normale.
Je m'appelle Hassène Kérou, je suis l'adjoint au responsable de la scolarité. Notre unité est composée d'un peu moins de 100 élèves de la classe de 3e à la classe de BTS.
Mais ce sont aussi des jeunes qui, pour la plupart, sont en internat ici et qui peuvent se retrouver dès l'âge de 14 ans à plusieurs centaines de kilomètres de leur famille. C'est particulier, ça, quand même, à gérer.
C'est très singulier, c'est sûr. On pourrait penser que c'est très tôt, trop tôt, puisque nous avons, pour certains sports, je pense à la gymnastique, des jeunes, oui, de 14, 15 ans, qui arrivent ici, en région parisienne, qui viennent parfois de loin, pour qui les premiers temps sont certainement très difficiles. Mais il y a une attention vraiment très particulière qui est portée sur leurs conditions de vie. On a un internat mineur, avec un bâtiment spécifique pour les mineurs, avec une équipe dédiée à ces internes mineurs, à ces internes jeunes. Et très honnêtement, c'est le modèle le plus proche d'une famille en dehors de la famille, avec des surveillants d'internat qui sont très à l'écoute, avec une responsable et une adjointe qui sont des mamans de substitution. Je pense, pour leur poser souvent la question, que nos jeunes se sentent quand même très bien ici.
Malgré le fait que ce soit quand même des sacrifices importants.
Ce sont des sacrifices importants, mais ils correspondent à un objectif qui est majeur et qui est très porteur pour eux. Être un champion, être le meilleur dans sa discipline, faire les Jeux Olympiques, intégrer l'équipe de France, ce sont des choses vraiment qui leur tiennent à cœur et qui les portent. Et qui les portent surtout dans les moments difficiles.
C'est des souvenirs exceptionnels, parce que vous grandissez avec vos frères et vos sœurs d'armes au sein de cet internat. Moi, j'étais en colocation avec ma meilleure amie. On va manger au self, on est des milliers au self, et en fait, vous croisez un gymnaste de 1m30, et puis après, vous voyez un basketteur de 2m, et puis bah, vous, les premières années, vous regardez un peu comment chacun fonctionne, et puis vous dites, ok, je suis vraiment là, et j'appartiens vraiment à ce monde-là, donc c'est grandiose. C'est féerique en fait de pouvoir être dans un tel village. Moi j'ai passé 2 ans à l'internat et puis après j'ai voulu prendre ma liberté aussi à l'extérieur, d'avoir ma maison, de pouvoir me faire à manger, de créer ma famille aussi. Et aujourd'hui je suis externe, j'y vais 2 fois par jour, tout est facile, on traverse le bois, je viens en vélo, je suis là, je suis à l'INSEP, je m'entraîne Et tout est axé vers ça, pour que la performance soit au cœur du projet. Et du coup, on a pu avoir l'esprit léger sur la piste après pour pouvoir... On sait qu'à côté, les choses, elles tournent.
Retour en cours avec Émilie Barbe, la professeure d'histoire-géographie, et ses élèves basketteurs.
Donc, d'où le fait que pour certaines sociétés, il y ait des entraînements réguliers, comme, qu'est-ce qu'on a vu comme exemple ?
Est-ce que ce moment de cours le matin, ce moment de classe, est-ce que c'est la punition de la journée, ou est-ce que vous préfériez passer toute votre journée sur votre terrain de basket, ou est-ce que vous trouvez quand même que c'est important d'être là ?
Ouais, je préférerais quand même jouer au basket toute la journée, mais on a beaucoup moins d'heures de cours. Du coup, le peu qu'on a, ça ne dérange pas vraiment.
C'est important, Cécilia, ce maintien à la scolarité ?
Oui, parce que déjà, ça aère un peu l'esprit. Quand des fois, à l'entraînement, c'est dur, que tu prends des coups sur la tête, tu reviens en cours avec la bienveillance d'un prof, avec tes collègues, même d'autres sports, d'autres disciplines, tu parles d'autres choses. Pour après retourner à l'entraînement, te dire « Ok, je vais cravacher », mais c'est important de s'aérer l'esprit. Sur le long terme, c'est très important. Ouais.
Jonathan, vous avez fait sport-études aussi ? Comment ça s'est organisé pour vous ?
Alors moi, ça a été un peu plus complexe parce que j'ai pas eu la chance de bénéficier d'une telle structure, une telle adaptation. Donc je me suis confronté aussi à une pédagogie enseignante qui avait pas peut-être le recul ou aussi la matière de tout ce que ça comporte le sport de haut niveau. Donc c'est vrai qu'ils se mettaient pas pleinement à notre place et encore plus malheureusement en étant en situation de handicap. Donc c'est vrai que ça a été un combat à toute épreuve, mais qui on en sorti vraiment grandi. Mais dans la vie d'athlète, on a besoin de l'école aussi pour grandir, parce que certes le sport est une école de la vie, mais l'école en elle-même aussi, pour penser, que ce soit pour performer plus tard et pour penser au post-carrière aussi qui suivra, parce que la vie de sportif de haut niveau, elle est limitée, et qu'il y a une vie après le sport aussi.
Je te vois sourire, parce que c'est un discours que t'entends beaucoup. Tes parents te disent ça tous les jours ?
Tous les jours, oui. Que l'école, c'est important.
Ouais. Et les profs ?
Oui. Beaucoup, oui.
Que tout peut s'arrêter pour vous à tout moment avec le sport ?
Oui, les blessures et même une carrière, ça finit assez tôt. Du coup, faut avoir un bagage après pour continuer.
C'est bon pour tout le monde ? Bon, vous révisez bien d'ici demain. Demain, entraînement sur la méthode, contrôle demain après-midi. Bonne fin de journée, tout le monde ? À demain, bon entraînement.
Il est évident qu'on n'est pas la partie la plus sympa, la plus fun de leur journée, mais on sait, et eux également savent, que la carrière sportive, c'est quelque chose d'aléatoire. Aucun de nos sportifs n'a la certitude, non seulement d'atteindre son objectif, mais de vivre de son sport. Soit parce que les sports pratiqués peuvent être très exigeants, mais pas très rémunérateurs, et donc nécessitent de se former pour avoir un métier, soit pendant sa carrière, soit après sa carrière. Et puis certains sportifs qui se dirigent vers des carrières plus rémunératrices, je pense aux basketteurs par exemple, qui rêvent tous de NBA ou de club pro en France, ne savent pas à 15, 16, 17 ans s'ils auront le niveau, la chance et la réussite pour atteindre leur objectif. Donc pour ces jeunes-là, avoir une formation scolaire solide, avoir un parcours d'études jusqu'au bac et au-delà du bac, c'est absolument essentiel.
Après ma licence, donc j'ai fait un master en journalisme et j'ai été après donc diplômée en 2013 et j'ai intégré France Info dans la foulée en 2014-2015. J'ai bossé là-dedans pendant 7 ans jusqu'à 2021. Donc j'animais des chroniques toutes les semaines.
Bonsoir Cécilia.
Bonsoir Fabrice.
Vous retenez beaucoup de choses de ces Jeux Paralympiques ?
Beaucoup de choses bien sûr, mais on peut déjà citer la performance XXL sur les pistes de la délégation ukrainienne.
C'était hyper riche parce que même quand j'étais fatiguée, de me dire que j'avais ma journée à France Info, dans ce monde un peu extérieur, dans le monde de la radio, c'était une vraie chance et je retournais à l'entraînement avec encore plus de créativité, beaucoup plus d'énergie. C'est vraiment cet équilibre qu'il faut trouver tout au long de sa carrière. Entre des fois ce sera le monde professionnel, des fois ce sera le monde sportif, c'est une vraie balance. Des fois ce sera 90 dans le sport et 10 dans le monde à côté, et des fois beaucoup plus l'inverse. Donc c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver, questionner tous les jours, et c'est ça qui vous enrichit aussi sur le long de votre carrière.
Mais pendant ces 7 années-là, vous avez été capable et de mener de front une carrière journalistique et votre carrière de sportive.
Alors c'était très sport de mener les deux de front, mais c'était vraiment un enrichissement. C'est-à-dire que quand je partais 15 jours, 3 semaines, il fallait que j'enregistre à l'avance 15 jours, 3 semaines de chronique. Et ça m'a nourri ma carrière d'escrime aussi. Et le stress que je pouvais ressentir quand je mettais mon casque, que j'arrivais en studio et que je devais lancer ma chronique, bah c'est exactement ce que je pouvais ressentir quand j'étais en chambre d'appel, que j'étais à 2 mètres de la piste et que boum, l'arbitre il disait en garde, êtes-vous prêt ? Boum, allez, c'est du direct, c'est du live, il ne faut pas se tromper. Et j'ai fait beaucoup de parallèles dans tout ça et ça m'a beaucoup aidé pour ma carrière de sportive. Ouais.
Dans le prochain épisode, nous poursuivons notre visite de l'INSEP avec la découverte de la Halle Maigrot, une gigantesque salle d'athlétisme couverte.
Cette affiche m'avait beaucoup impressionné par l'appellation rugby fauteuil. J'étais très intrigué à l'idée de me dire comment on peut faire du rugby en fauteuil.
Nous en saurons un peu plus sur l'histoire de Jonathan, capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. À bientôt. Cet épisode hors série sera à retrouver dans le podcast du Parisien, Le Sacre, à partir du 14 avril, puis chaque dimanche jusqu'au 12 mai. Toyota.